Laudetur Jesus Christus.
La question des armes du Hezbollah est une affaire interne au Liban. Déclaration ce mercredi du chef de la diplomatie iranienne en visite à Beyrouth. Visite très attendue de la part du parrain de la milice chiite affaiblie ces derniers mois. La guerre sévit toujours au Soudan et le droit humanitaire en fait les frais. Un convoi de l'ONU a été visé dans le nord Darfour. Au moins 5 morts. La communauté internationale détourne les yeux notamment sur le financement de cette guerre, nous dira une chercheuse. Dans ce journal également, la Bulgarie qui obtient le feu vert de Bruxelles pour intégrer prochainement la zone euro. Et puis une nouvelle passe d'armes diplomatique entre la Russie et l'Ukraine après le nouvel échec des discussions à Istanbul. Moscou doit être forcé à négocier, clame Kiev. Nous ferons le point à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet.
Bonsoir. Une visite importante et symbolique au Liban, celle du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Achrakchi. L'occasion pour lui de s'entretenir avec le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem, ce mercredi, et d'évoquer l'avenir de la milice chiite au pays du Cèdre après son affaiblissement ces derniers mois. Pour le ministre iranien, la question sensible des armes du Hezbollah est une question interne au Liban. Cette visite qui s'inscrivait lors d'une tournée régionale de l'iranien. Les précisions de notre correspondant à Beyrouth, Paul.
Malgré les propos d'Abbas Araghchi devant les dirigeants libanais sur le respect mutuel et le principe de non-ingérence, sa visite s'est déroulée dans un climat de méfiance croissante. Les dirigeants libanais voient d'un mauvais œil le soutien de Téhéran au Hezbollah et cherchent par tous les moyens à rebâtir de bonnes relations avec les pétromonarchies du Golfe et avec les États-Unis. Le discours du chef de la diplomatie iranienne est certes nouveau et prudent. Il a évoqué des relations bilatérales d'État à État, recentrées sur les échanges institutionnels. Il a exprimé le soutien de son pays aux autorités libanaises et appuyé les démarches diplomatiques du Liban pour obtenir le retrait israélien de son territoire. Il a cependant réaffirmé le soutien ferme de Téhéran au Hezbollah lors d'un entretien avec le chef du parti chiite, Naïm Qassem, et estimé que les sacrifices consentis par cette formation paveront la voie à, je cite, « la défaite inéluctable d'Israël ». Tout en affirmant que le désarmement du Hezbollah est uniquement du ressort des Libanais, Abbas Araghchi a souligné que la diplomatie seule pourrait ne pas suffire à résoudre les différends avec Israël. Le ministre iranien a rencontré à Beyrouth le président Joseph Aoun, le premier ministre Nawaf Salam, le chef du parlement Nabih Berri et le ministre des Affaires étrangères Youssef Raji. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Dans la bande de Gaza, les centres d'aide humanitaire de la Fondation humanitaire de Gaza, organisme soutenu par les États-Unis, sont fermés jusqu'à nouvel ordre après le chaos de ces derniers jours. Des dizaines de civils gazaouis ont été tués à proximité des points de distribution. L'ONU a dénoncé aujourd'hui le choix délibéré d'Israël de priver les gazaouis des moyens de leur survie. Un nouveau vote doit avoir lieu ce mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU à New York, réclamant un cessez-le-feu et l'accès humanitaire à Gaza. Israël qui, avec cette guerre, se met au banc de la communauté internationale. Au-delà des condamnations, ce sont les liens économiques qui sont parfois suspendus ou rompus avec des alliés. C'est le cas dans le domaine militaire, par exemple, où l'Espagne a annoncé ce mercredi annuler pour plus de 285 millions d'euros d'acquisition d'armement en provenance de l'État hébreu. La dynamique est différente du côté allemand. L'Allemagne qui continuera à soutenir l'État d'Israël, y compris par des livraisons d'armes. Déclaration cet après-midi du chef de la diplomatie allemande devant les députés au Bundestag. Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Saar, ministre israélien, est d'ailleurs en visite à Berlin. Il rencontrera son homologue allemand demain, jeudi. Le secrétaire général de l'ONU dénonce l'attaque meurtrière d'un convoi humanitaire au nord Darfour. Hier, 5 personnes, membres du Programme alimentaire mondial et de l'UNICEF, ont été tuées dans cette attaque. Un acte de violence odieux, déplore Antonio Guterres, qui précise qu'il s'agissait du premier convoi humanitaire de l'ONU à destination de la ville d'El Fachir depuis plus d'un an. Cette guerre civile soudanaise qui dure depuis avril 2023 et qui a ravagé le pays, un effort de guerre qui est notamment permis par les subsides liés au trafic de l'or. La communauté internationale peine néanmoins à se soucier du financement de ce conflit. C'est ce que déplore Raphaël Chevrillon-Guibert. Elle est chercheuse à l'Institut de recherche pour le développement.
Quand on regarde l'évolution de cette guerre, c'est quelque chose qui frappe tout observateur. C'est le fait qu'on n'a pas l'impression qu'aucun des deux belligérants ne veut proposer de négociation, que la solution militaire reste l'option imaginée, souhaitée, ultime pour chacun des camps opposés. Ça veut dire qu'il y a une capacité de combat qui continue d'être là. Ça veut dire qu'il y a toujours des armes. Ça veut dire qu'il y a des potentialités d'acheter encore même du pétrole, hein, qui coûte quand même très cher aujourd'hui, vu comme les infrastructures ont été touchées. Et ben, on peut imaginer très clairement que l'or sert à acheter justement tous ces besoins pour l'armée, tous ces besoins militaires, donc acheter des armes, acheter du pétrole, soutenir cet effort de guerre envisagé par les deux belligérants. Avec un peu de volonté politique, il y a des mécanismes qui existent pour pouvoir tarir ce soutien à la guerre qui est totalement dramatique. On parle d'une des pires guerres avec les plus grands drames humanitaires. Ce sont des millions de personnes qui sont déplacées. Vous avez déjà des milliers de personnes qui sont mortes. Ça fait déjà plus de 2 ans. Donc il y a vraiment une urgence et un besoin d'intervention. Aujourd'hui, les belligérants ne veulent pas trouver de solution, mais tout le monde ferme les yeux et personne ne leur met la pression. C'est ça qui est vraiment terrible.
Raphaël Chevrillon-Guibert de l'IRD, interrogé par Augustine Asta. À la une de ce journal également, la Bulgarie qui s'apprête à recevoir son feu vert pour entrer dans la zone euro. Le pays avait dû, comme la Roumanie, attendre 2007 pour entrer dans l'Union européenne. Mais il s'apprête à la coiffer au poteau pour la course à la monnaie unique. Les Bulgares devraient avoir des euros dans leur portefeuille avant les Roumains, mais aussi les Suédois, les Hongrois, les Tchèques ou les Polonais, puisque la Commission européenne va recommander une adhésion à l'euro pour la Bulgarie au 1er janvier prochain. Les précisions à Bruxelles de Pierre Bénazé.
Pour la Bulgarie, la perspective d'adhérer à l'euro, c'est le résultat du rapport dit de convergence que Sofia a demandé en février dernier. Depuis 2020, la monnaie bulgare, le lev, est parvenue à entrer dans le mécanisme de taux de change, l'héritier du serpent monétaire européen. Il contraint la monnaie nationale à rester dans un taux de change qui ne varie pas de plus de 15% par rapport à l'euro. Pari réussi, la Bulgarie a donc pu officiellement postuler pour la monnaie unique et se soumettre au rapport que la Commission a présenté aujourd'hui. Pour la Commission, la Bulgarie satisfait donc aux 5 critères de convergence avec l'économie de la zone euro, les fameux critères de Maastricht. D'abord le change, donc, puis des prix stables, puisque l'inflation est légèrement en dessous de la moyenne européenne. Ensuite, une dette publique très faible, 24%. La Bulgarie est le deuxième pays le moins endetté de l'UE. La France est à 113%, pour rappel. Enfin, son déficit public est contenu à 3%. C'est la limite supérieure et ses taux d'intérêt à long terme sont stables. Pierre Bénazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
La perspective d'une trêve sont toujours bien lointaines entre la Russie et l'Ukraine. Les discussions menées entre les deux belligérants à Istanbul lundi dernier n'ont donné rien de concret. Et ce mercredi, Myriam Sandouneau, Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de mauvaise volonté.
Oui, Olivier, il n'y a toujours pas de cessez-le-feu en vue entre les deux pays. Moscou qui a en effet annoncé un refus côté ukrainien d'accepter une trêve partielle de 2 à 3 jours accuse Kiev de vouloir un cessez-le-feu pour se réarmer et renforcer son armée. Lors d'une réunion diffusée à la télévision publique, le président russe a évoqué des crimes commis à l'encontre de civils, notamment des femmes et des enfants, à la veille de la nouvelle séance de pourparlers de paix proposée à Istanbul, qui, a indiqué Moscou, vise à perturber le processus de négociation. Côté ukrainien, l'appel au cessez-le-feu de Kiev demeure la priorité. Moscou doit être contraint à la diplomatie. Nous avons besoin d'une paix véritable, d'une véritable sécurité, clame Volodymyr Zelensky, j'y arrive finalement, qui entend utiliser toutes les méthodes disponibles pour y parvenir. Il qualifie d'ultimatum les conditions de paix russes inacceptables pour son pays. Les autorités ukrainiennes, lassées par ce conflit, entendent obtenir de nouvelles sanctions américaines contre Moscou, chose que l'administration Trump refuse pour l'heure. L'Ukraine propose une nouvelle rencontre à la Russie entre le 20 et le 30 juin prochain.
Myriam Sandouneau, merci. Un nouvel échange de prisonniers russes et ukrainiens devrait avoir lieu le week-end prochain. Un premier échange de 1000 prisonniers russes contre 1000 ukrainiens avait déjà eu lieu entre le 23 et 25 mai dernier. Pour le cardinal Parolin, aucune paix est impossible. Le secrétaire d'État du Saint-Siège a accordé un entretien au quotidien italien La Stampa et revient sur plusieurs conflits, à commencer par l'Ukraine et le Proche-Orient. Le Saint-Siège, assure-t-il, est disponible pour que les ennemis se rencontrent, reprenant ainsi des propos de Léon XIV il y a quelques semaines. Le pape qui, ce matin, lors de l'audience générale, a poursuivi ses catéchèses sur les paraboles de Jésus. Il est revenu sur l'épisode des vignerons dans l'évangile de Saint Matthieu, un épisode qui donne de l'espérance, a-t-il noté. À l'issue de cette audience, le Saint-Père, saluant les pèlerins de langue française, a souhaité insister sur la défense de la valeur de la vie humaine, même en sa dernière heure. Le 27 mai dernier, les députés français avaient adopté en première lecture une proposition de loi approuvant un droit à l'aide à mourir. Et ainsi s'achève ce journal. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain matin à 8h30 pour une nouvelle édition. Excellente soirée à tous.